Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous donc Pôle Info Santé, créé il y a déjà 18 ans. Ça y est, nous sommes majeurs, ça se voit, non ? Pôle Info Santé, donc, c'est le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont l'une des missions, vous le savez, c'est l'éducation à la santé, et puis l'Espace Mendès France, qui nous accueille ici, centre de culture scientifique. Et l'objectif de ces rendez-vous, bien, c'est de vous permettre au grand public d'échanger avec des professionnels de santé hospitaliers et généralistes qui sont présents. Je vais vous les présenter dans un instant. Ils vont se présenter à vous, vont vous proposer un exposé avec des images et ils vont vous expliquer la thématique de ce soir, donc les maladies dépressives. À la fin des exposés, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Je viendrai vers vous, vous voir et vous pourrez poser vos questions. Si vous êtes un petit peu timide, si vous n'avez pas envie de vous exprimer au micro, vous pourrez poser vos questions par écrit. Il y a d'ailleurs une feuille qui est prévue à cet effet. Vous avez peut-être tous vos petits feuillets saumon. Et à l'intérieur, il y a une feuille qui est prévue pour. Entre vos mains, ces documents. Alors, il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a des infos pratiques, etc. Il y a des compléments d'information. Et puis, il y a aussi une fiche d'évaluation. Alors, cette fiche, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de répondre au plus près à vos attentes, à vos demandes, à vos exigences aussi. Donc, vous n'hésitez pas, en fin de rendez-vous tout à l'heure, à les remettre à nos hôtesses qui vous attendront donc à la fin, à la sortie. Cette conférence sera traduite à l'attention du public sourd, que l'on est heureux d'accueillir aussi ce soir. Les maladies dépressives, les symptômes, les diagnostics, les traitements, les avancées, voilà en gros les thématiques que nous allons développer pendant cette heure ensemble. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce 91e rendez-vous conférence Pôle Info Santé ici à l'espace Mendès France. Et c'est le moment de vous présenter nos intervenants ce soir. On va commencer avec vous, le docteur Diane Lévy-Chavagna, praticien hospitalier au CH Henri Laborie. Bonsoir. Il y a également le docteur Michael Baconnier, chef de clinique, assistant service hospitalo-universitaire du professeur Senon, toujours à Henri Laborie. Bonsoir. Et puis le docteur Bernard Champin, médecin généraliste à Poitiers. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Notez bien toutes vos questions. Vous avez des petits papiers, vous avez des stylos, parce que souvent, quand on parle comme ça, quand c'est dans le flot de la conversation, on a parfois un petit peu de mal à se souvenir des questions que l'on a envie de poser à nos intervenants. Profitez-en, ils sont là. Il n'y aura pas de consultation personnelle, évidemment, parce que nous ne sommes pas dans un lieu adéquat pour. Mais en revanche, vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent sur la thématique du jour. Je propose donc de démarrer tout de suite, sans plus attendre, avec vous, docteur Diane Lévy-Chavagna.
Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, on a donc la tâche, hein, donc avec mon collègue psychiatre et mon collègue généraliste, d'essayer de vous éclairer un petit peu sur un thème extrêmement vaste, hein, qui peut concerner tout un chacun, hein, et qui est celui des maladies dépressives. Alors, habituellement, hein, on sépare les maladies dépressives en deux types de maladies. Hein. On parle de dépression unipolaire. Hein. Donc ça, c'est des maladies qui s'expriment surtout, hein, par uniquement une dépression, voire plusieurs dépressions, ou les dépressions dites bipolaires, hein, c'est-à-dire des dépressions qui peuvent arriver, hein, dans une vie où on aura également des moments, au contraire, où on aura des périodes d'excitation. Donc là, c'est plutôt dans un autre cadre, mais c'est quand même des maladies dépressives. Hein. Chacun peut avoir une forme tout à fait identifiée. C'est pour ça qu'on insiste sur le pluriel, hein, du terme maladie dépressive. Hein. Selon votre histoire, la personnalité que vous avez, et puis un certain nombre de paramètres, hein, de vie, hein, on peut avoir des symptômes plus ou moins fortement exprimés. Ce qui fait que le traitement, hein, n'est pas unique pour tous. Hein, il va être personnalisé par le médecin, selon votre cas, vos symptômes, votre histoire. Le médecin donc peut avoir un recul, non seulement pour faire le diagnostic, hein, mais également pour attacher votre symptôme au cadre. Donc, je vois que le diaporama est légèrement grignoté par, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très important, hein, rattaché au cadre donc général de votre souffrance. Alors, les symptômes. Hein, donc en médecine, comme vous le savez, on parle de symptômes, hein, de symptomatologie. Alors, il est évident que si on considère les symptômes pris tout seuls, on ne peut pas vraiment considérer qu'on peut faire le diagnostic d'une union de dépression, hein, puisque la dépression, elle atteint toute votre vie. Hein. Ce n'est pas comme, par exemple, une pathologie cardiaque ou une pathologie infectieuse hein, qui va toucher soit, par exemple, le cœur, les poumons ou autre. Là, c'est vraiment toute votre personne hein, qui est touchée par ce type de maladie. Hein. C'est ce qui en fait justement parfois la difficulté hein, à détecter le fait que ça soit une maladie. Hein. Il y a tout ce qui concerne les registres de l'affectivité hein, de votre vie, la tristesse, l'hypersensibilité émotionnelle, l'impression d'abandon, l'anxiété, hein, tout ceci de manière plus forte qu'une simple tristesse réactionnelle, par exemple. Le fait que dans votre vie intellectuelle, hein, bon, vous ne soyez plus exactement dans un état habituel, hein, vous sentez que vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez des problèmes de mémoire, hein, vous, dans la vie active, la fatigue n'est pas une fatigue passagère, c'est une fatigue qui peut être permanente, vous réveillez fatigué, vous couchez fatigué, vous rendormez fatigué, vous réveillez fatigué. Donc, bien évidemment, le sommeil, même s'il apparaît parfois non perturbé, ne vous donne aucun repos, ne vous permet pas de vous récupérer. Hein. Le ralentissement, hein, vous sentez que vous êtes plus lent à faire un certain nombre de choses. Et tout ce qui considère votre vie, on va dire, physiologique, hein, c'est-à-dire le sommeil, l'appétit, la sexualité, ces centres d'intérêt-là sont en général plutôt diminués. Hein, le sommeil peut parfois être, à l'inverse, ce qu'on appelle une hypersomnie. Hein, les gens disent « mais j'ai tout le temps sommeil, j'ai besoin de dormir pendant des heures et des heures ». Et en réalité, quand on interroge les gens, c'est pas qu'ils dorment, c'est qu'ils, quand ils sont dans l'état de sommeil, ils ne pensent pas. Et donc, ils souffrent moins. Hein. Donc, le fait de se réfugier dans une forme de sommeil, on va dire, excessif, n'est pas très, très bon signe. C'est une manière de vous protéger de la souffrance. Hein. Alors, autre question. Hein. Donc là, j'ai essayé un petit peu de poser des questions que tout un chacun peut se poser. Mais est-ce que c'est grave, la dépression ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une maladie ? Oui, parce que si ce n'était pas une maladie, on ne serait pas là tous médecins à vous parler de ces troubles-là. Ben oui, c'est grave. Hein. Alors, ce qui veut dire grave, ça ne veut pas dire que c'est incurable. Hein. Attention. Hein. Ce qui est grave n'est pas synonyme de ça ne se soigne pas. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a une souffrance très importante hein, et votre bien-être, hein, bon, plus ou moins important selon la vie qu'on a, hein, est gravement altéré. La souffrance morale, qui est une souffrance très forte, qui est difficile à quantifier. Hein. La souffrance physique n'est pas toujours facile non plus à quantifier, mais enfin, on a quand même des échelles hein, qui permettent souvent hein, de graduer la douleur. La douleur morale, elle est très personnelle et elle est très difficile à communiquer. Hein, et on peut arriver à être en danger de mort, c'est-à-dire qu'on peut être amené à avoir notre vie qui bascule, hein, c'est par le biais des tentatives de suicide, par exemple. Hein, et il y a des répercussions négatives hein, sur nous, bien sûr, mais aussi sur notre entourage, hein, c'est-à-dire nos proches, notre travail. Et finalement, il y a comme une boule de neige qui va se transformer en avalanche. Hein, si à un moment, il n'y a pas quand même quelqu'un qui vient vous prendre la main en disant « mais tu vas pas bien, t'es plus mal que d'habitude, tu peux pas rester comme ça, il faut t'aider ». Voilà, on va en parler, on va aller voir le médecin. Mais très souvent, les gens qui sont en dépression n'ont pas envie qu'on aille vers eux. Hein. Et c'est ce qui rend souvent cette maladie assez longue avant d'être soignée. Et comme on le verra avec notre collègue Champin, le médecin traitant, le pilier du soin, la première personne qu'on va voir quand on est mal, hein, est quand même essentiel dans ce suivi, hein, au-delà bien sûr de vos proches qui parfois sont complètement dépassés hein, et eux-mêmes ont peur un petit peu de voir cette transformation qui est en train de se dessiner petit à petit chez vous, puisque je le rappelle, n'importe qui, hein, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le pays, hein, peut être amené à se trouver dans un état de maladie dépressive. Hein, donc, il n'y a pas d'exclusivité. Hein, c'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui disent « Mais j'ai toujours été tellement forte. Dans ma famille, c'est moi qui aidais tout le monde. C'est sur moi que tout le monde se reposait. » Et donc, ce n'est pas possible. Hein, donc, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, docteur. Je ne peux pas vous croire. Je ne suis pas déprimée. Donc, c'est très difficile, l'acceptation même de cette maladie. Hein, et c'est souvent ce qu'on voit un petit peu dans les maladies, on va dire, psychiques. Hein, la grosse difficulté... et c'est tout à fait compréhensible, hein, à accepter le fait d'avoir autre chose qu'une maladie somatique, finalement. Hein. Et ça, il y a tout un petit peu tous les tabous, hein, qui tournent autour de la folie, autour de cette espèce d'angoisse, hein, de perdre le contrôle de soi-même et d'être rentré dans une spirale incurable, ce qui, bien évidemment, est faux, hein, puisque bon, nous, en tant que psychiatres et médecins, on sait qu'on arrive à soigner de très nombreuses personnes atteintes de dépression. Mais, bien évidemment, ce n'est pas une maladie bénigne. Hein. Alors, ça concerne énormément de monde. Hein, donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, hein, mais quand même, il est important d'avoir quelques éléments. Hein. Alors, très souvent, il y a un sentiment de honte. Hein, voilà. Quand vous réfléchissez bien, il n'y a pas tellement de maladies, à part peut-être ce qu'on appelait les maladies honteuses au siècle dernier, hein, qui étaient ces maladies, on va dire, vénériennes, enfin, qui parfois donnaient l'impression que la personne fréquentait, enfin, n'était pas de bonne mœurs. Hein. Mais la dépression, ce n'est pas du tout ça. Mais souvent, la personne est touchée par un sentiment de honte parce qu'elle se sent diminuée, elle ne se reconnaît pas. Hein. Bon, la fréquence, ça je l'ai dit tout à l'heure, d'où l'importance que les médecins soient formés, aussi bien les généralistes, mais bien évidemment également encore plus les psychiatres. Hein. Mais le généraliste sait, connaît beaucoup de choses sur la dépression, hein, et en particulier le fait de pouvoir la repérer et la soigner. Alors, 2 personnes sur 10 hein, seraient touchées dans leur vie au moins une fois par la dépression, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est pas faible. N'ayez pas peur pour autant, hein. Mais bon, c'est quand même pas anodin comme fréquence. Hein. Et par exemple en France, hein, bon, voilà, ça donne un petit peu l'idée de ce que ça peut donner en millions de personnes. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là sont forcément soignés. Hein. C'est pas parce qu'on a une maladie quelle qu'elle soit qu'on a forcément le soin qui est le plus adapté. Hein, mais en tout cas, c'est une estimation. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui chapeaute bon, l'étude des maladies et de la santé dans le monde, hein, a mis quand même en avant, hein, et dans le domaine de la santé publique, hein, donc la santé qui concerne vraiment tout un chacun, le fait qu'on va arriver, hein, avec les maladies dépressives, normalement en projection 2020, au deuxième rang des maladies les plus handicapantes. Hein, handicap, c'est-à-dire en particulier handicap social, hein, par rapport au travail, par exemple. Hein, voilà. Et ça, c'est vrai que la santé publique, hein, c'est aussi de permettre aux gens de vivre dans la société, d'avoir une activité ou une insertion sociale. Hein, et donc là, le handicap vient de ces difficultés-là. Donc, cette projection n'est pas, je pense, faite par hasard. Hein, et l'OMS est une organisation très sérieuse, hein, qui a des annexes dans tous les pays du monde. Donc voilà, donc on est loin, hein, d'une maladie imaginaire, comme encore on peut entendre, hein, sans que ça soit forcément péjoratif dans la bouche de celui qui va utiliser ce terme. Mais ce n'est pas une maladie imaginaire. Hein, les maladies dépressives sont des maladies, tout simplement. Et je pense que justement, ensuite, les diaporamas, les exposés de mes collègues, en particulier mon plus jeune collègue, hein, qui va nous apporter un petit peu les nouveautés dans ce domaine-là, vont bien vous montrer l'importance et toutes les possibilités thérapeutiques qui s'ouvrent à nous, hein, au jour le jour avec ce type de maladie. Alors, autre question qu'on peut tout à fait se poser, hein, est-ce que spontanément... Ça peut passer comme ça, hein, parce que finalement, j'étais peut-être un peu dans le creux. Et puis bon, en attendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, je vais peut-être finir par me réveiller de ce cauchemar. Et puis je vais reprendre ma vie exactement comme avant. Hein. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. Nous avons un cerveau, hein, et la dépression est une maladie qui atteint principalement le cerveau. Hein. Et qui atteint bien évidemment aussi la volonté. Hein. Et c'est ça qui parfois fait écueil, c'est-à-dire que le fait d'avoir une maladie qui touche la volonté ne veut pas dire qu'on n'a aucune volonté. Et que si on en avait un peu plus, eh ben on arrivera à se secouer et on partirait. Et c'est souvent ce que la personne elle-même pense, d'où le sentiment de honte qu'on peut avoir. Mais bien évidemment, même si on essaye de faire un travail sur soi-même, si le cerveau, c'est-à-dire les centres, les neurones du cortex sont atteints, avec tous les efforts qu'on fera, on ne pourra pas seul s'extraire de cette maladie. La seule volonté ne peut conduire à la guérison. Bien évidemment que le fait d'être volontaire dans une démarche de soins, et en particulier par rapport à un traitement qu'on vous conseillera, qu'il soit médicamenteux ou psychothérapeutique, est essentiel. Mais si les gens apparaissent ne pas avoir de volonté, c'est souvent parce que déjà la maladie dépressive est quand même relativement avancée. Donc on ne peut pas, si on se remet spontanément, c'est qu'on avait, on était dans le creux de la vague, on était dans une réaction de dépressivité, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on était dans un choc par rapport à, par exemple, un deuil ou une perte ou quelque chose, et que finalement, quand même, au bout de quelques semaines, on finit par être un peu mieux. Donc on peut dire qu'on n'était pas vraiment atteint d'une maladie dépressive à ce moment-là. Alors, les principes du traitement, ils sont pas très compliqués, mais ils sont multiples. La dépression affecte donc la biologie du cerveau, entre autres choses, affecte les pensées, les émotions, ainsi que notre identité dans la société. Une personne qui a été, entre guillemets, étiquetée, j'aime pas ce terme, mais c'est parfois comme ça que les gens le vivent, comme dépressive, le jour où elle revient tranquillement à son boulot, curieusement, on ne va pas la regarder comme si elle revenait après un infarctus. Vous voyez, elle va se rendre compte que les gens la regardent autrement et elle va se sentir des fois gênée de ce que les collègues vont pas lui dire ou vont lui dire. Donc, l'identité sociale est affectée par ce trouble dépressif. Et donc, bien évidemment, le traitement devrait essayer de chapeauter un petit peu tous les registres de ces souffrances. Et souvent, c'est pour ça que les médecins essayent d'avoir une action médicamenteuse, une action éventuellement de neurostimulation, soit par ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie pour les dépressions extrêmement graves qui ne répondent pas du tout aux médicaments. C'est ce qu'on appelait à l'époque les électrochocs. Je peux répondre à des questions là-dessus après, si vous voulez. Après, on a traitement par résonance magnétique. Ça, c'est la science, c'est la nouveauté. C'est les protocoles dont mon collègue de droite vous parlera. Bien sûr, les psychothérapies, plutôt que là, puisqu'il y a différentes formes, qu'elles soient de soutien, psychanalytique, thérapeutique, cognitivo-comportementale ou autre. Les aménagements de l'environnement, c'est vrai que les gens, des fois, ils disent « Mais docteur, moi, je vais pas bien, mais vous n'allez pas changer ma vie, vous n'allez pas me trouver de travail, vous n'allez pas transformer le caractère de mon mari que je ne supporte pas, vous n'allez pas faire revenir ma mère qui vient de décéder. » Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, bon, bien évidemment, nous, en tant que thérapeute, on ne va pas faire de miracle. Mais on va pouvoir aider la personne à continuer à vivre dans cet environnement qui est le sien, et peut-être à faire des choix, peut-être à prendre des décisions pour que des choses évoluent, pour qu'elle n'accepte pas certaines choses qui peut-être lui faisaient trop de mal. Donc ça fait partie aussi, bien sûr, de la psychothérapie. Soigner, ce n'est pas juste faire disparaître les symptômes. En tout cas, en particulier pas dans le domaine des maladies dépressives. C'est permettre à la personne malade d'accéder à une reprise de son être, de son autonomie, de ses capacités psychologiques pour de nouveau reprendre le cours de sa vie et se trouver capable d'avancer de nouveau, peut-être sur un autre chemin, peut-être différente, puisqu'on est quand même on change un petit peu après avoir été en maladie dépressive. Donc voilà un petit peu le but des traitements. Alors, pour terminer avec les deux dernières diapos, puisque je ne veux pas emboliser sur le temps de mes collègues, est-ce que finalement je ne vais pas devenir un autre? Est-ce que les médicaments ne vont pas me transformer? C'est souvent une question qu'on entend, qui fait peur. Je ne veux pas être sous médicaments. Je ne veux pas rentrer dans la spirale des médicaments. Ça fait particulièrement plus peur en psychiatrie que dans les autres maladies. en général, et la dépression, bien sûr, est concernée. Hein. Alors, bien évidemment, les médicaments antidépresseurs, ils agissent sur le cerveau, hein, ça c'est clair. Ils corrigent un certain nombre d'anomalies biologiques qui sont dues à la maladie dépressive elle-même. Hein, et certaines personnes pensent que ça va modifier toute leur façon d'être de A à Z. Hein. Bon, c'est un peu erroné comme crainte, même si elle est compréhensible, hein, puisque souvent, c'est ce qui fait que les gens ne veulent pas prendre de médicaments. Soit de peur de la dépendance, jamais je vais m'en sortir, docteur, je suis rentrée dans le tunnel de la dépression, je vais avoir des médicaments toute ma vie parce que ma sœur était comme ça, parce que ma voisine était pareille, etc. Donc ça, il faut tout de suite mettre à plat et essayer d'aider les gens, hein, à vous faire confiance, parce que dans une relation de soins, tout est basé sur la confiance, hein, bien évidemment. Hein. Et à partir de là, ça peut aider la personne à accepter de prendre le traitement. Bon, bien évidemment, ce n'est pas forcément le premier médicament qui va correspondre à ce qui vous... ce qui va vous aider, vous soigner. Peut-être qu'on va devoir ensuite en essayer un autre. Hein. Mais c'est surtout la relation médecin-malade et le médicament qui sont ensemble. Hein. Y a pas, on ne peut pas uniquement vous faire une ordonnance, vous dire au revoir, je vous revois dans 2 mois. Non, les gens qui commencent un traitement, on va les revoir assez rapidement, hein, puisque les médicaments antidépresseurs n'agissent pas vite, hein, ils agissent lentement. Hein. Ça, c'est vraiment important à savoir. Et finalement, bon, quand on interview, quand on fait des études sur les patients qui prennent des antidépresseurs, on voit qu'ils n'ont pas changé de personnalité. Hein. Bien évidemment, parfois, ces gens-là étaient un petit peu anesthésiés, on va dire, affectivement. Hein. Ils étaient un petit peu à l'écart du monde. Ils étaient moins sensibles à leur environnement, au malheur des uns, au malheur des autres. On dit parfois qu'ils étaient... égoïste, hein, leurs proches leur disent « mais c'est pas possible, tu t'intéresses qu'à toi, tu es centré sur toi ». Quand on souffre énormément, on a du mal à voir qu'on a des gens autour, hein, qui ont peut-être mal aussi. Hein. Donc le fait d'être moins dépressif, ça va peut-être de nouveau, hein, vous refaire sentir un certain nombre de choses. Et c'est, en général, les gens, bon, disent qu'ils vont mieux. Hein. Mais bon, ça, c'est des généralités, bien sûr. Alors les facteurs de risque, là, je vais aller un peu plus rapidement. Alors, il y a des familles, hein, où il peut y avoir des antécédents familiaux de dépression. Alors, on peut être dans des familles de dépression bipolaire. Hein. Bon, là, les médecins vont toujours vous demander, est-ce que dans votre famille, vous avez des gens qui ont fait de la dépression ? Ce n'est pas par une curiosité malsaine, mais c'est parce que nous, ça nous aide après à choisir les traitements et à pouvoir mieux discerner de quel type de dépression vous pouvez avoir. Hein. Il n'y a pas que de la génétique, hein, ça c'est clair. Il y a aussi les traumatismes de l'enfance, hein, les événements de vie difficiles qui peuvent être des déclencheurs, hein, plus qu'autre chose. Hein. Alors, est-ce qu'on est vulnérable ? La personnalité, hein, que vous avez peut contribuer plus ou moins à ce que vous ayez des réactions différentes à certains chocs de la vie, hein. Les gens, par exemple, qui ont peu confiance en eux, qui ont une faible image d'eux-mêmes, sont peut-être plus susceptibles, hein, ensuite d'avoir, au niveau cérébral, hein, une facilité à avoir une dépression. De même pour les gens très exigeants envers eux-mêmes, très perfectionnistes, hein, qui n'expriment pas, ceux qui n'expriment pas leurs sentiments, ils vont pouvoir avoir un risque un petit peu plus élevé. Ça, maintenant, on le sait. Alors, pour terminer, les facteurs de stress. Hein, bon, beaucoup d'études montrent que les pertes, hein, les traumatismes de la toute petite enfance, hein, le décès, la séparation des parents très, très tôt, bon, les gens qui ont manqué de sécurisation finalement quand ils étaient petits, y a des événements comme le deuil, le divorce brutal, la mise en retraite, hein, des problèmes d'argent. Bon, ça peut petit à petit, hein, si ça s'enchaîne, si c'est jamais parlé, si ça peut favoriser, hein, le terrain de la dépression. Hein. Et puis si vous les accumulez, hein, y a des gens qui peuvent accumuler un certain nombre de ces facteurs-là, le cerveau, hein, qui doit défendre la personne finit par petit à petit s'affaiblir, hein, et la dépression peut se développer plus vite. Et parfois, le fait d'être dépressif va faire revenir à votre mémoire des éléments que vous aviez complètement refoulés. Hein. Et on voit ça, par exemple, pour les personnes qui ont subi des abus, par exemple, sexuels, hein, dans la toute petite enfance, qui, au travers d'un épisode dépressif, vont avoir une remontée comme ça du passé. Hein. Et bon, avec le psychothérapeute, ça va pouvoir permettre, hein, justement d'avancer, hein, et de ne pas cristalliser ce problème-là. Les facteurs biologiques, je vais aller très vite puisque ça va être repris par mon collègue dans la troisième intervention. Mais là aussi, hein, les traitements, hein, et les bouleversements que vous avez eus à différents moments de votre vie, que ce soit des moments heureux ou des moments de maladie, peuvent avoir affecté hein, le déséquilibre hormonal ou chimique du cerveau. Hein. Le cerveau est un organe fragile. Hein, et donc, à partir de là, on va essayer de mener une enquête. Hein, et il y a aussi les dépressions saisonnières, mais Michael vous en parlera mieux. Hein. Donc, je vais directement laisser la parole à mon collègue, le docteur Champin, qui va donc... je vais afficher son diaporama. Donc, c'est lequel ? Ça doit être celui-là, je pense. Hein, c'est celui-là.
Ouais, c'est ça.
Hein, voilà. Voilà. Voilà, dépression par le médecin généraliste. Diaporama. À partir du début. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces étiquettes. Tu te démultiplies, ouais. Bernard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, je ne sais pas comment on les enlève. Tu sais comment on les enlève ?
Non, c'est bon.
Bon.
Tu veux se mettre là ?
Oui, mais toi là.
Donc, bonsoir. Après donc, cet exposé très complet de ma consoeur Diane Lévy, avant les thérapies innovantes qui vont vous être présentées par mon confrère Baconnier. Moi, je vais vous parler essentiellement de ces maladies dépressives vues par les médecins généralistes. Donc la dépression, comme vous le savez, est une situation à laquelle le médecin généraliste est quand même régulièrement confronté. Et les patients s'adressent souvent à lui en première intention pour plusieurs raisons. Comment ça marche, oui. Alors la première raison, bon, c'est une raison bassement matérielle, c'est l'obtention d'un rendez-vous rapidement. Vous savez qu'on est dans une période où on ne manque pas de médecins, mais on manque quand même pas mal de médecins de soins, et en particulier dans certaines spécialités comme la psychiatrie de ville, on manque un peu de psychiatres. Donc ce n'est pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous rapidement. Alors que chez un médecin généraliste, quoique, on arrive quand même à le rencontrer assez facilement. Donc, deuxième raison, c'est la bonne connaissance de son patient, de son histoire, de son environnement, de son entourage. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait, enfin, je ne souhaite pas que ça soit au passé, le médecin de famille. Alors, cette bonne connaissance du patient va permettre une appréciation d'une rupture avec un état antérieur. Ça, c'est très important, parce que dans la dépression, il y a quand même ce côté rupture avec un état intérieur. Quelqu'un qui était en forme, qui aimait sortir, jouer au golf, aller en voyage, du jour au lendemain, plus rien n'intéresse. Et ça, pour apprécier cette rupture, il faut quand même bien connaître la personne, et le médecin généraliste, là, est quand même bien placé pour évaluer cet état. Bon, une raison aussi administrative, depuis 2004, c'est le respect du parcours coordonné de soins. Vous savez que maintenant, sauf pour les malades de moins de 25 ans, je crois, mais avant d'aller voir un spécialiste, il faut quand même passer par son médecin traitant. Donc le médecin généraliste va intervenir à plusieurs étapes de la maladie. La première étape, c'est l'étape diagnostique. Hein, comme toute pathologie, comme toute démarche en médecine, c'est l'étape la plus importante. Il faut partir sur une bonne piste. Alors deux situations peuvent se présenter, une situation relativement facile. Les symptômes caractérisant la maladie sont évidents, donc ma consoeur Diane Lévy vous l'a parlé, vous en a parlé, la fatigue, la tristesse, la perte de l'élan vital, cette souffrance morale là, qui vous taraude, qui vous fait énormément mal, la pauvreté du discours, de l'expression, etc., les troubles du sommeil, des difficultés de concentration, et surtout la perte de l'estime de soi, ça c'est aussi important. Alors quand vous avez tous ces symptômes, évidemment, c'est comme on dit, c'est comme dans les livres. Donc le diagnostic est relativement aisé. Par contre, il peut y avoir des symptômes somatiques qui sont au premier plan et qui peuvent égarer le diagnostic. C'est-à-dire que ça ne nous facilite pas les choses. Donc des plaintes fonctionnelles diverses, des douleurs digestives, intestinales, des palpitations, des troubles de la sphère urogénitale, des douleurs de la colonne vertébrale, voire une altération de l'état général, etc. Donc qui peuvent quelquefois faire égarer la démarche diagnostique. Donc pour le médecin, psychiatre ou généraliste, d'ailleurs, il y a deux écueils à éviter, les diagnostics par excès. diagnostic par excès, bah, c'est voir des dépressions partout. Hein, bon, une tristesse passagère, comme on vous l'a évoqué, bon, quand on a raté son permis de conduire ou que je sais pas, on a écorché sa voiture. Bon, une crise existentielle aussi, ça peut arriver, des gens qui changent de vie, qui changent de profession, qui quittent la France, etc., des coups de blues. Il y a aussi des caractères et des tempéraments moroses. Hein. Il y a des gens qui, à 12 ans, sont tristes et à 85 ans, sont tristes. C'est pas pour ça qu'ils sont dépressifs. Deuxième diagnostic par excès, aussi mettre tout sur le compte des nerfs. Hein. Certains médecins, quand bon, devant des symptômes, disent c'est les nerfs. Enfin, ça se disait surtout autrefois, peut-être moins maintenant. Donc pour éviter ce diagnostic par excès, ben, il faut éliminer les affections organiques pouvant être à l'origine des symptômes. Faut se méfier que derrière des symptômes qui peuvent faire penser à une dépression, il faut quand même éliminer les maladies organiques. Alors, problèmes hormonaux, thyroïdiens, troubles métaboliques, diabète, baisse du sodium, des maladies neurologiques aussi, maladies de Parkinson, des maladies neurodégénératives, des syndromes d'apnée du sommeil, des cancers, etc. Alors, le deuxième écueil, c'est le diagnostic par défaut, c'est-à-dire ne pas détecter de réelles dépressions qui sont masquées, ce qu'on appelle des dépressions qui sont masquées derrière des signes somatiques ou une addiction ou autre chose. Difficulté aussi chez la personne âgée, hein, qui ne s'exprime pas toujours de façon claire et précise, hein, donc ce n'est pas toujours évident. Difficulté aussi de soigner un confrère, un proche ou soi-même. Alors, je ne devrais pas vous dire ça, mais enfin, il faut savoir qu'à peu près, toutes spécialités confondues, 80% des médecins se sont désignés eux-mêmes comme médecins traitants. Et moi-même le premier, d'ailleurs, soit par facilité. Alors, ce n'est pas la meilleure des choses, parce qu'on perd une certaine distance et une certaine objectivité pour se soigner soi-même. Deuxième diagnostic partiel, bah, sous-estimer la sévérité des plaintes fonctionnelles. Bon, certains médecins disent mais non, c'est rien du tout, ça va s'arranger, c'est pas grave. Bon, il faut quand même se méfier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces pièges? Ben, il faut un temps d'écoute suffisant. Hein. Ça, c'est le béaba de la démarche médicale, diagnostique. Un examen clinique complet, ça aussi, hein, c'est ce qu'on nous apprend à la fac. Et éventuellement, quand on hésite, ben, comme toute démarche médicale, des examens complémentaires éventuels. Et si vraiment, vraiment, on n'est pas branché sur la psychiatrie ou vraiment on patauge un peu, ben, faut pas hésiter à avoir recours aux spécialistes. Deuxième étape, une étape aussi très importante hein, pour la suite, c'est l'étape d'information. Vous savez que depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002 là, sur les droits des patients et la qualité du système de santé, le malade a droit à une information donc claire, loyale et adaptée. Donc cette information doit être donnée au malade sur sa maladie, dans la mesure où il comprend, expliquer les causes, les traitements, les possibilités de guérison, mais aussi de rechute, hein, ce qu'on appelle être loyal, et dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité. Alors là, ce n'est pas toujours facile, parce que bon, quand on vit avec un malade dépressif, il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Donc, sans aller trop loin, bon, on déroge un petit peu à la déontologie, mais il est bon quand même d'informer l'entourage proche, quoi, pour qu'il n'y ait pas trop de surprises et pas trop d'attitudes néfastes. Hein. Des gens, genre dire, écoute, il faut te secouer un peu, et tu as tout pour être heureux, ou viens, on va aller au Baléares. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire à un dépressif, parce que vous l'enfoncez encore plus. Il se dit, bah oui, c'est vrai, je suis vraiment le dernier des imbéciles, j'ai tout pour être heureux, et puis là, je suis complètement paralysé. Donc, il y a quand même quelques conseils à donner à l'entourage, avec discrétion et tact. Donc, clair, loyal, adapté sur la maladie. Bon, nécessite. Alors, pourquoi donc cette information? Ben, de façon à obtenir une adhésion, ça c'est très important, une adhésion, c'est-à-dire un consentement du patient, un consentement éclairé, comme il est dit dans la loi. Donc, un patient qui a adhéré à ces explications, donc va adhérer au suivi et au traitement. Qui peut mettre, alors lequel traitement, comme on vous l'a dit, peut mettre un certain temps avant d'agir. Vous savez que la plupart des antidépresseurs mettent entre 15 et 20 jours, voire plus, avant de faire montrer leurs effets. Nécessité aussi d'un suivi médical. Hein. Une dépression, ce n'est pas une angine qui se guérit en 5 jours. Et point important, mais je vais pas y insister puisque ma consoeur Diane vous en a parlé, c'est déculpabiliser, hein, parce que beaucoup de gens se sentent atteints dans leur amour propre, dans leur honneur, ils prennent ça un peu comme une maladie un peu honteuse, etc. Donc déculpabiliser, leur dire que non, ça peut arriver à tout le monde, même à des gens très bien, et que ça se soigne et qu'ils vont aller mieux. Donc toujours véhiculer l'espérance et l'espoir. Un médecin ne doit jamais véhiculer le désespoir, même dans les cas graves. Alors la troisième étape, c'est l'étape de décision-traitement. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est l'abstention thérapeutique. Hein, pourquoi pas, quand on n'est pas sûr que, hormis le cas de l'urgence, bien entendu, mais quand on n'est vraiment pas sûr, qu'on hésite un peu, parce que c'est pas facile, comme je viens de vous le dire, on peut attendre, dire, écoutez, revenez me voir dans une dizaine de jours, ou téléphonez-moi, etc. Ça permet de réfléchir, de laisser se décanter des choses. Et comme vous l'a expliqué Madame Lévy, quelquefois, quand c'est qu'un petit coup de blues, avec le temps, on a quand même des ressources naturelles dans notre cerveau que les choses vont s'arranger naturellement sans aucun traitement. Alors sinon, c'est le choix d'un traitement médicamenteux. Je veux pas, il y a divers médicaments, surtout depuis les années 80. Maintenant, ces médicaments sont quand même assez maniables. C'est pour ça qu'ils sont relativement prescrits facilement par le médecin généraliste en ambulatoire. Autrefois, il y avait les antidépresseurs, les IMAO, les tricycliques, qui donnaient beaucoup d'effets indésirables. Maintenant, avec ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, on a fait beaucoup de progrès dans la tolérance de ces médicaments. Troisième décision, quand vraiment soit le médecin généraliste n'est pas tellement branché sur les problèmes psychologiques ou psychiatriques, ou vraiment il a des difficultés, il passe la main au psychiatre. Donc il prend un rendez-vous avec un psychiatre. En général, de médecin à médecin, on peut quand même s'arranger pour avoir un rendez-vous assez rapidement. Dans les cas plus dangereux, plus graves, plus inquiétants, c'est l'hospitalisation. Il n'y a pas, faut pas prendre le risque. Et puis on peut proposer, comme vous l'a évoqué ma consoeur, des thérapies cognitives complémentaires, donc comportementales, de soutien, analytique, etc. Et puis cinquième décision, l'arrêt de travail. Alors c'est pas obligatoire, mais dans certains cas, il y a une telle inhibition, une telle fatigue, qu'on est obligé quand même d'arrêter les personnes. Alors ensuite, l'étape du suivi, c'est important, comme je vous l'ai dit, ça soigne pas comme une angine en 5 jours. Il faut établir avec son patient un calendrier avec des rendez-vous de consultation de suivi, dire écoutez, revenez me voir le 15 novembre, et puis après on se reverra au début de l'année, etc., faire un planning. Alors, au cours de ces rendez-vous ultérieurs, on renouvelle les médicaments, on voit s'ils ont été efficaces, on modifie les doses ou les produits, on associe plusieurs produits, ça c'est le travail du médecin, ou éventuellement on change la décision initiale. Alors, quand on voit que ça ne va pas, qu'on part sur une mauvaise piste, on peut proposer la consultation d'un spécialiste ou éventuellement une hospitalisation. Et toujours informer les divers intervenants, c'est-à-dire si on fait appel à un psychiatre, toujours lui envoyer une observation, une lettre détaillée, et inversement, le correspondant envoie au médecin généraliste un courrier détaillé, qui est une bonne information entre praticiens. Puis, comme on vous l'a dit, la gravité de la dépression, c'est le risque de passage à l'acte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ne faut quand même jamais le perdre de vue, parce que c'est quelquefois imprévisible et surprenant. Enfin, pour terminer, l'avenir après guérison, faut rester vigilant, faut rester vigilant, parce que même quand on est guéri, c'est quand même des personnes qui ont fait une dépression, quelquefois, et qui ont commencé jeunes. Donc, au fil des étapes de leur vie, mariage, premier enfant, problèmes professionnels, quelquefois, ils peuvent rechuter. Donc, faut quand même être très vigilant avec ces personnes-là et dépister à temps les prémices de rechute. Comme vous l'a évoqué aussi ma consœur Diane, essayer d'agir sur les causes extérieures. On ne peut pas leur proposer de changer de conjoint, de mari ou de compagnon, mais éventuellement essayer de changer de travail, voire de région, voire d'habitat, si ces causes extérieures sont quand même au premier plan. Et dans tous les cas, il faut garder le lien, il ne faut jamais leur dire au revoir, c'est terminé, cassez-vous. Non, il faut toujours qu'il y ait un lien, dire écoutez, s'il y a un problème, n'hésitez pas à revenir me voir ou à me retéléphoner. Je vous remercie.
Tu veux te mettre à la place ?
Je vais te mettre à ta place. Bien. Merci, docteur Chapin, pour ce brillant exposé sur la position du médecin généraliste. Donc, on est vraiment là sur finalement la prise en charge en première ligne clinique de l'épisode dépressif. Et mon intervention à moi va se situer plutôt en bout de chaîne, pour dire en préambule, effectivement, que les sujets dont je vais traiter ne sont pas réducteurs et ne sont pas réductibles de ce qui se joue dans la maladie dépressive, mais que les dimensions qui vont être abordées ici constituent le nerf de la guerre des 10 à 15% de patients dépressifs qui souffrent de vulnérabilités biologiques qui prédisposent à la dépression, c'est-à-dire aux troubles de l'adaptation à l'environnement, et qui sont de fait qui posent l'indication de recours à des techniques de soins qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus spécialisées, et qui, encore une fois, ne constituent pas l'ensemble des pathologies dépressives. Je crois qu'il faut être très clair dès le départ. Donc aujourd'hui, on m'avait demandé de traiter un petit peu des sujets de recherche concernant la dépression et les maladies dépressives. C'est un vaste sujet, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, dans les neurosciences cognitives, on assiste à une véritable révolution liée à l'accès à de nouvelles techniques d'investigation, et qu'il y a des choses nouvelles qui bougent dans tous les sens, tous les jours, que ce soit au niveau de la neurochimie, au niveau de la génétique ou au niveau de l'imagerie fonctionnelle, par exemple, et qu'on a des nouveaux outils thérapeutiques. J'ai décidé d'axer ma présentation sur les outils thérapeutiques innovants qui sont à la disposition des usagers du CHU de Poitiers, enfin, et du centre hospitalier Henri Laborie et du service hospitalo-universitaire de Poitiers, pour vous donner un petit panel d'idées de ce qui se fait au jour d'aujourd'hui dans votre ville, d'assez innovant dans la prise en charge des maladies dépressives. Tout d'abord, un petit rappel sur la neurobiologie des émotions. Je ne peux pas faire fi de ces rappels de base avant de développer les techniques dont il va être question ici, pour expliquer que l'organisation finalement du cerveau, elle se fait de manière horizontale et verticale. De façon horizontale, c'est-à-dire que différentes zones du cortex cérébral vont communiquer les unes avec les autres en surface, mais également qu'il y a une surface qui se fait, une communication qui se fait de façon verticale, de l'extérieur vers l'intérieur du cerveau, selon trois niveaux d'organisation élémentaire qu'on décrit à un vieux neurobiologiste qui s'appelait MacLean dans les années 40. Hein, une organisation qui s'est faite au cours de l'évolution de notre espèce. En fait, les parties les plus profondes de notre cerveau sont les parties les plus archaïques, celui qu'on appelle le cerveau reptilien, et qui contrôle le fonctionnement neurovégétatif et réflexe, la température, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, toutes ces choses qui échappent à la fois à la conscience et au contrôle volontaire. Puis progressivement sont apparues d'autres structures cérébrales dans notre espèce, qu'on partage avec d'autres espèces, en particulier les mammifères, qu'on appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, dont l'évolution de notre espèce, c'est le siège des pulsions élémentaires, pulsions sexuelles, pulsions alimentaires, pulsions agressives, pulsions de domination territoriale. Ces pulsions élémentaires gouvernent la vie d'un individu, puisque vous savez, Claude Allègre définissait la vie comme l'ensemble des stratagèmes comportementaux mis en place par un individu ou un groupe social pour tirer de son environnement les matières premières et l'énergie dont il a besoin pour assurer sa survie et celle de son espèce. Eh bien, on n'échappe pas à cette règle. On est avant tout des mammifères, et très profond dans notre cerveau, on a des structures qui nous permettent de chercher à manger, de chercher un partenaire sexuel, d'être agressif, de vouloir dominer du territoire. Et puis, ce qui fait l'humanité, et là je cite Roger Gilles, c'est l'apparition du néocortex. Donc, le néocortex, ce sont les parties les plus superficielles du cerveau, les plus répandues, celles qui sont en évolution permanente dans notre espèce et qui contrôlent les fonctions dites supérieures et les fonctions dites exécutives. Eh bien, la maladie, les troubles de l'humeur et l'ensemble des troubles des émotions intéressent à différents niveaux potentiels, hein, l'un de ces trois étages et les différents degrés de communication qu'il peut y avoir entre ces étages. Pour avoir une idée de l'organisation schématique, vous avez ici l'organisation du système limbique, avec en bleu tout petit noyau que vous voyez au centre du cerveau qu'on appelle les amygdales. Les amygdales sont fonctionnellement connectées à cette partie verte que vous voyez ici, qu'on appelle les hippocampes. Les hippocampes, on en parle beaucoup, puisque ce sont les structures neurologiques qui sont atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Les amygdales sont en fait des structures qui vont permettre d'attribuer une valence émotionnelle, positive ou négative, triste ou joyeuse, à des souvenirs qui sont encodés dans la mémoire au niveau de l'hippocampe. Vous voyez qu'un certain nombre de structures sont associées à ces structures au niveau cérébral, le septum ici, le gyrus singulaire, qui sont des structures associatives et qui vont permettre d'être en connexion avec d'autres entités fonctionnelles au niveau du cerveau. En particulier, au niveau de ce qu'on appelle les ganglions de la base, qui sont des structures toujours très archaïques et très enfouies au sein du cerveau, qui permettent de faire des associations comportementales. Vous avez parmi ces noyaux le noyau accumbens qui se situe ici, qui est le noyau du plaisir. il s'inscrit dans un circuit fonctionnel beaucoup plus vaste qu'on appelle le circuit de la récompense et qui est en fait un organe fonctionnel qui nous permet de reproduire un comportement qui nous procure du plaisir. C'est le moyen le plus sûr qu'a trouvé l'évolution pour que nous reproduisions des comportements qui ont intérêt pour notre espèce. Exemple type, la sexualité, la satiété. J'ai besoin de manger pour vivre, je me sens rassasié lorsque j'ai mangé, je stimule mon circuit de la récompense, je vais reproduire ce comportement. Les relations sexuelles sont a priori satisfaisantes, je prends du plaisir, je recherche des partenaires, de temps en temps une partenaire tombe enceinte et on assure la reproduction de l'espèce. Ce qui n'est pas mon cas particulier, mais ce qui se passe généralement de la sorte. Enfin, le dernier degré d'organisation cérébrale, c'est l'apparition du néocortex. Et vous voyez que chez l'homme, donc puisqu'il s'agit bien d'un cerveau d'homme ou de femme, un cerveau humain en tout cas, la partie située sur le tiers antérieur du cortex est appelée cortex frontal. Et la plus grande partie de ce tiers antérieur, les deux tiers, soit le sixième du cerveau humain, s'appelle le cortex préfrontal. Cette partie du cerveau est dévolue aux fonctions d'inhibition, d'attention, mais également au niveau des processus de prise d'initiative. Vous voyez que ce cortex préfrontal est étroitement lié à des structures qui sont très motrices. Cortex prémoteur, dont la fonction est la préparation d'une commande motrice, et le cortex primaire moteur, qui, lui, est directement lié à l'exécution de la commande motrice. Donc, vous avez une organisation fonctionnelle. La naissance des pulsions, ce que Freud appelait le sapulsionnel, au niveau archaïque, puis, par via un jeu de réseaux de connexion, de projection vers des structures néocorticales qui autorisent à la fois l'explicitation consciente, l'inhibition et la mise en place des comportements dirigés vers les objets de la pulsion. Ah, Freud avait une vision qui était partiellement juste. La pulsion n'est pas que libidinale et sexuelle, mais elle est aussi alimentaire, territoriale, etc. Il existe un grand nombre, 5 pulsions élémentaires qui gouvernent la vie psychique d'un mammifère et d'un homme en particulier dans sa vie. La nature de l'encodage de ces émotions est double. Elle est de nature chimique via ce qu'on appelle les neuromédiateurs, c'est-à-dire que les neurones de ces différents circuits communiquent les uns avec les autres via des substances chimiques, sérotonine, noradrénaline, dopamine essentiellement, qui dérivent toutes d'un acide aminé qui est essentiel qu'on trouve dans l'alimentation qui s'appelle le tryptophane. Une fois que ce message chimique a été transmis d'un neurone à un autre neurone, on a un encodage dans les réseaux de neurones qui se fait selon des modalités électriques. Mais il existe d'autres degrés d'encodage du message neuronal qui se font à d'autres niveaux, en particulier au niveau spatial et temporel, c'est-à-dire que les décharges électriques d'un groupe de neurones, selon qu'elles sont synchrones ou non, selon qu'elles sont rapides ou non, vont avoir des effets à distance sur d'autres groupes de neurones. Et vous avez différentes régions du cerveau, de manière horizontale et verticale, qui vont se mettre à communiquer les unes avec les autres et qui vont élaborer tout un langage qui va permettre d'obtenir tout un panel, tout un échantillon des modulations, des émotions. Il existe des structures qui interviennent en parallèle de ces structures, comme des structures modulatrices, et le docteur Chapin a bien fait de vous le dire, on ne pense pas qu'avec ses neurones, contre-intuitivement, on pense aussi avec son système immunitaire et avec ses hormones. Et il est bien évident que les hormones féminines qui fluctuent au cours du cycle, que les hormones thyroïdiennes qui peuvent fluctuer au cours de certaines pathologies, influent le mode de fonctionnement des interactions neuronales et donc influent sur l'humeur, a priori. Il existe l'ensemble de ces circuits sont finalement très complexes, ils sont intégratifs et ils permettent a priori l'adaptation d'un individu à son environnement. Il arrive parfois que les stimulations et les contraintes de l'environnement soit trop forte pour un sujet qui a des facultés de résilience données et qu'il bascule dans la dépression. Inversement, il existe que des gens possèdent une fragilité biologique telle que des moindres contraintes environnementales vont précipiter la maladie, et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de maladie dépressive, en ce qui me concerne. En somme, on a un message qui est complexe, qui s'effectue à différents niveaux, et vous voyez que la pathologie peut intervenir à différents niveaux des degrés de complexité de l'organisation neurobiologique des comportements dans le cadre de la maladie dépressive. Ce qui a des implications en termes de thérapeutique. La première implication, c'est l'utilisation des molécules. Vous voyez que la nature du message est chimique, donc les molécules qu'on utilise ont pour but de moduler la neurotransmission chimique. C'est le principe des ISRS et des antidépresseurs classiques. Mais vous voyez qu'on peut essayer d'envisager d'agir à d'autres niveaux en stimulant directement les zones du cerveau concernées et en s'en passer par le message chimique et par les molécules, soit par une stimulation néocorticale directe, c'est le principe de la RTMS, soit en stimulant les structures basales, limbiques, profondément enfouies dans le cerveau qui dirigent les pulsions primaires, ce qu'on appelle les stimulations cérébrales profondes. Je ne vais pas m'étendre, c'est un sujet assez complexe. Je vais essentiellement vous parler des RTMS et puis un petit peu des stimulations cérébrales profondes pour parler de ce qui se fait à Poitiers. Un rapide historique sur les RTMS pour dire simplement que la nature électrique de l'influx nerveux est quelque chose qu'on a découvert il y a bien longtemps puisque Galvani avait remarqué qu'un bout de fer aimanté était capable d'induire une contraction sur une patte de grenouille. Le principe de l'électromagnétisme fait son apparition dans les années 1800, 1820-1831, jusqu'à la codification par Faraday. Et ça n'est qu'à la fin des années 1800, début des années 1900, qu'on a les premières implications médicales de l'utilisation d'un champ électromagnétique appliqué à la médecine. Il faut attendre les années 80 pour que les équipes de chercheurs britanniques, l'école de Sheffield, Barker et Bickford, utilisent des champs électromagnétiques pour stimuler électriquement en retour des zones de cerveau. Et c'est dans les années 90 aux États-Unis que Pasquale Leone, la boss de la Columbian Institute, applique ces techniques de stimulation au champ des maladies mentales. Le principe de base de la RTMS, c'est le principe de l'induction électromagnétique de Faraday, qui veut que tout champ électromagnétique appliqué à un semi-conducteur induise en retour un champ électrique appelé champ électrique induit. C'est le principe de la dynamo de votre vélo. Faites tourner un aimant dans une bobine, il produit un courant électrique qui va allumer votre ampoule. Et c'est le principe de votre plaque à induction. Un champ électromagnétique au contact d'une casserole conductrice induit de la chaleur. Et là, dans notre cas particulier, ce qu'on cherche, ce n'est pas produire de la chaleur, c'est produire un influx de courant électrique continu qui va stimuler les neurones. C'est cette illustration. Alors, quoi ça ressemble à RTMS en pratique? C'est un fauteuil comme ça, le patient est assis, il y a une bobine de stimulation, il est éveillé, il n'est pas anesthésié, c'est indolore. On pose sur sa tête, on regarde une cible prédéfinie, je vous dirai comment, une bobine qui va décharger des fréquences d'ondes électromagnétiques dans le temps et qui vont permettre de stimuler les groupes de neurones cibles pour sa pathologie donnée. Donc le principe c'est de stimuler à des fréquences qui sont soit hautes soit basses pour avoir un effet soit inhibiteur soit excitateur sur le groupe de neurones pour permettre d'induire une modification comportementale sur le degré d'humeur, l'intensité des rituels obsessionnels chez les TOC, etc. selon l'indication qui est posée. Il existe différentes techniques qui permettent de localiser la cible que l'on souhaite obtenir. Dans le cas particulier de la dépression, vous avez vu que la cible corticale, c'est cette grosse partie de cerveau située à l'avant chez l'homme, qui est très très importante. Donc on n'a pas besoin d'avoir des outils très précis de localisation. On fait ce qu'on appelle un repérage statistique avec une méthode qui utilise un bonnet et une échelle de mesure métrique qu'on appelle le système G10-20. Et parfois, dans certaines pathologies, on a recours à des techniques de ciblage beaucoup plus précises des zones de cerveau qu'on souhaite stimuler. Et c'est le principe de la neuronavigation. À ce moment-là, on fait réaliser des clichés d'IRM en trois dimensions par nos amis radiologues. Et on a des logiciels comme des GPS qui nous permettent de définir les cibles qu'on souhaite stimuler pour positionner la bobine en regard et à envoyer les décharges qu'il faut au niveau des zones corticales concernées. L'avantage de ce type de technique, c'est que c'est non-invasif, contrairement à la chirurgie. Il y a une relative innocuité, c'est indolore. Ça peut être réalisé en ambulatoire sans anesthésie, contrairement à d'autres techniques thérapeutiques comme la sismothérapie, par exemple. On n'a pas d'effet de passage périphérique comme avec les molécules. Et a priori, ça s'adresse à un public de personnes qui sont déjà résistantes aux molécules pour différentes raisons, parce qu'ils en ont eu pendant longtemps et que progressivement, le cerveau a mis en place des mécanismes chimiques de résistance aux molécules, parce que dans la famille concernée, il existe potentiellement une modification génétique qui touche au récepteur de la dite molécule et que donc les molécules sont inefficaces et donc on stimule, on obtient un effet thérapeutique par un autre biais que celui de la molécule chimique. Les effets secondaires et j'y reviendrai plus tard si vous avez des questions parce que c'est pas tout à fait l'objet des contre-indications non plus. Le principe du déroulement d'une séance, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait rapidement en ambulatoire. Après détermination de ce qu'on appelle le seuil cortical, la neuronavigation, plusieurs temps. Généralement, ce sont des protocoles qui durent sur 2 à 6 semaines, avec des séances qui sont quotidiennes, pour un bénéfice thérapeutique qui est de l'ordre du mois quand ça marche. Donc, ce sont des techniques qui sont en cours d'évaluation. Et bien sûr, je ne pourrais pas vous vendre d'efficacité durable de ces techniques qui sont précisément en cours d'évaluation. Dans le cadre de la dépression, plusieurs études ont été menées à l'international, montant l'efficacité potentielle d'un tel traitement. Et en France, nous avons ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire un programme hospitalier de recherche clinique qui a été déposé en 2007 par l'équipe lyonnaise d'Emmanuel Poulet pour évaluer la supériorité de cette technique thérapeutique versus le venlafaxine, qui est un antidépresseur que les médecins psychiatres connaissent bien. Et donc, on inclut à Poitiers des patients dépressifs résistants ou pas, pour des protocoles de RTMS et dépression dans cette indication-là. Et on est plusieurs centres en France, plusieurs centres hospitalo-universitaires à participer à cette étude pour mesurer l'efficacité réelle de cette technique par rapport à ce qui existe déjà et pour qu'elle puisse potentiellement trouver une place dans la nomenclature de la sécurité sociale pour un remboursement ultérieur et pour pouvoir en définir les modalités de prescription. Enfin, quelques mots pour terminer des stimulations cérébrales profondes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines pathologies psychiatriques résultent d'un hypofonctionnement des zones très, très, très profondes du cerveau qui gouvernent les pulsions essentielles. Et donc, certains types de patients très, 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 très résistants peuvent bénéficier d'interventions neurochirurgicales. Donc, c'est des choses qui se font après des évaluations pluridisciplinaires par des psychiatres, des neurologues, des neurochirurgiens, de plusieurs centres hospitalo-universitaires. Et qui aboutissent à la pose de sondes de stimulation, comme dans la maladie de Parkinson, dans des structures qui sont situées profondes dans le cerveau, à savoir noyau accumbens, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis le noyau caudé qui fait partie du striatum ventral et qui est impliqué aussi dans les processus motivationnels, dont le but est de stimuler ces zones de cerveau par un boîtier qui ressemble à un pacemaker en réalité. C'est un pacemaker des parties profondes du cerveau, comme il existe des pacemakers cardiaques. Ces techniques sont très invasives, elles sont en cours d'évaluation, c'est très peu fait sur le plan national et sur le plan international. C'est pour ça que c'est exceptionnel, c'est réservé à des cas très sévères et très résistants. Bien sûr, c'est fait dans le cadre de services hospitalo-universitaires et de façon pluridisciplinaire après des avis qui durent souvent des mois. Mais c'est une des possibilités qui existe au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à tous les trois. Vous allez pouvoir bien sûr poser toutes vos questions, vos interrogations. Docteur Baconnier, pendant que vous aviez le micro, on a découvert qu'il y avait plein de choses, plein de techniques différentes. Où en est la recherche exactement? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore quelque part dans les cartons et qui évoluent tout doucement? Est-ce qu'on peut dire que d'ici plusieurs années, il n'y aura plus de dépression? De maladies dépressives.
Alors, merci pour cette question. vous posez la question de la dépression, de la maladie dépressive, et moi, je vous ferai la réponse de la médicalisation de la souffrance psychique, qui est un vrai problème dans notre société, où on est dans une logique productiviste, où il faut donner toujours plus. Il y a une dimension sociale à la dépression, qui a très bien été décrite par certains auteurs, en particulier en sociologie, je pense à Ehrenberg en particulier, et qui font que certaines personnes se définissent comme malades de dépression parce qu'elles sont débordées par l'excès de contraintes qu'elles ont dans leur environnement. Et ça, c'est lié à nos modes de vie, à nos sociétés. Et moi, je refuse de médicaliser ce qui est en réalité la conception, la représentation qu'on peut se faire d'un modèle social et de la place de l'individu dans la société. Et ça, c'est le premier élément de réponse que je voudrais vous donner. Le deuxième élément de réponse que je voudrais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, la stigmatisation de la maladie mentale dans la société a été pendant longtemps un frein à non pas l'évolution de la recherche en psychiatrie, mais à la prise de conscience collective et sociétale de ce qui était en train de se faire. Je crois que la recherche n'a pas de retard, elle avance, elle. C'est le regard de la société qui a du retard, à la fois sur la maladie mentale, sur les malades, et a fortiori sur la recherche en psychiatrie.
J'ai une autre question par rapport au... Alors, qui veut répondre ? Au rôle de l'entourage. Je crois que c'est vous qui en avez parlé, Dr Lévy, tout à l'heure. C'est l'entourage a un rôle important.
Alors, l'entourage a un rôle, bien sûr, tout à fait important pour différentes raisons. D'une part, chacun vit dans un environnement familial, le travail, social. Et il est clair que la maladie dépressive ne va pas toucher que l'individu. Hein. Il va bien sûr y avoir quelque chose qui va s'étendre hein, de manière centrifuge hein, à ses proches. Hein. Et à partir du moment où on part de quelque chose de systémique, hein, pour prendre la famille, par exemple, hein, il est vraiment important, et ça, le docteur Champin le disait bien, hein, qu'il y ait quand même un minimum d'informations sans pour cela déroger à l'intimité de la personne hein, qui fait que bon, elle n'a pas vraiment envie hein, qu'on sache tout d'elle, etc. Donc, je pense qu'à partir du moment, et on le voit très bien, en particulier dans les dépressions bipolaires et dans la maladie bipolaire aussi, où l'environnement est quand même informé, hein, d'abord, premièrement, qu'il s'agit non pas juste d'un fait ou de quelque chose de purement réactif, mais d'une véritable maladie. Et Michael a très bien expliqué, quand même, en faisant la description du fonctionnement du cerveau, que ça reste extrêmement complexe et plurifactoriel. Donc là, il faut vraiment déjà expliquer ça. Et à partir du moment où il y a une information qui peut être faite alors, par la personne elle-même, éventuellement par le médecin traitant, s'il est nécessaire de recevoir les couples, hein, il n'est pas rare qu'on reçoive les couples pour informer hein, l'autre. Hein. Et parfois, on voit bien des gens qui disent non, il ne faut absolument rien dire, je ne veux pas du tout que mon mari sache absolument rien, ma femme non plus. Je vous ai dit que je voulais me suicider, que j'y pensais nuit et jour, mais il ne faut surtout pas en parler à mon mari, surtout pas à ma femme. Il est évident que nous, en tant que médecins, à partir du moment où on est là quand même pour sauver les vies humaines, on va bien sûr aller au-delà de certaines résistances, toujours bien sûr en dialoguant avec le patient, pour l'aider. Donc, on le sait bien aujourd'hui, et tu l'as expliqué aussi hein, par rapport à des obligations qu'on a maintenant, hein, et à l'hôpital aussi, maintenant, on est de plus en plus ouvert aux familles. Hein, la porte fermée aux familles, on essaye de mettre ça vraiment dans le passé. Hein, et désormais, on doit pouvoir, hein, dans la mesure, bien sûr, où la personne est quand même minimum d'accord, hein, on n'est pas là pour non plus forcer les gens et complètement les obliger à faire uniquement ce qu'on a envie nous-mêmes. Hein. Il faut respecter le temps. Hein. Il y a une notion de temps très importante dans la dépression. Hein. Mais bon, l'environnement, et pour parler de la famille, alors après, il y a le travail. Alors, pour le travail, c'est encore autre chose. Hein. Aujourd'hui, il y a toute une formation, et en France, on a la chance d'avoir encore des médecins du travail, ce qui n'existe quasiment dans aucun pays, quand même. Hein. Donc, à partir de là, on a aussi nous-mêmes médecins, psychiatres, des tas de choses qui se font avec eux voilà, et avec le social. Quoi. Peut-être Bernard.
Oui, docteur Champagne, je voulais vous...
Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est l'intérêt du patient. Hein. C'est lui qui est au centre hein, du système.
Ouais. Je voulais vous demander justement, l'entourage professionnel, l'entourage familial peut aider. On dit souvent, je ne sais pas si le terme est bon, mais de s'occuper l'esprit, en fait, d'avoir quelque chose. Est-ce que ça peut aider la personne qui est en
oui,
dépression ?
Oui, il y a des gens qui n'ont fait aucune étude de psychologie, médecine ou psychiatrie, mais qui naturellement ont quand même une capacité d'écoute bienveillante naturelle et qui peuvent rendre quand même des services. Hein, des gens avec lesquels on est bien, on se sent serein, qui sont patients. Et ces personnes-là ne sont pas des professionnels, mais peuvent quand même apporter leur pierre à la prise en charge d'un tel patient, ça c'est certain.
Qui a des questions ? Vous pouvez lever la main, bien évidemment. Vous me les donnez par écrit si vous avez vos petits papiers. Profitez-en. Voilà, alors, je vais me déplacer par là. Lizzie ?
Bonsoir. Alors, question qui, j'espère, ne va fâcher personne. Vous parliez d'une dimension sociologique tout à l'heure, docteur Bacognier. La dépression est-elle une maladie, entre guillemets, de riches, de pays riches, ou pas ? Y a-t-il des études qui ont été faites à ce niveau-là ? Est-ce que, voilà, c'est ce que dans les pays, entre guillemets, sous-développés, il y a moins de dépression ? Ou est-ce que c'est vraiment nous, parce qu'on n'a que ça à faire de notre journée ? Alors, attention, ne vous fâchez pas de ma question.
C'est une excellente question. Ce qu'on sait, c'est que dans les pays industrialisés, il y a actuellement une recrudescence des diagnostics de tableaux dépressifs. Je pense, et ça va être très personnel, au moins pour un des points de ma réponse, que c'est lié à deux facteurs. D'abord, c'est lié à la surmédicalisation de la souffrance psychique. puisque nos médecins généralistes, nos spécialistes dès la fac, etc., aujourd'hui sont beaucoup mieux formés au diagnostic des souffrances psychiques. Et puis on a la pression aussi d'un environnement social qui médicalise la souffrance psychique, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc on se retrouve effectivement avec des gens qui sont authentiquement mal dans une société où on demande toujours plus à un individu qui est toujours plus sous pression, et où on a une surmédicalisation de la souffrance qui prend à tort le nom de maladie bipolaire, maladie dépressive. Je suis médecin hospitalier et j'y vais toujours avec le dos de la cuillère quand je vois des patients arriver avec une étiquette de bipolaire, le point levé. Maintenant, il y en a de temps en temps, donc il faut pouvoir... Voilà. Deuxième élément de réponse, oui. Oui, il y en a beaucoup. Deuxième élément de réponse, oui, la maladie mentale est universelle. Et dans les pays d'influence européenne occidentale, mais dans les pays autres, la maladie mentale est une réalité. Elle est abordée de façon différente. Il y a toute une lecture transculturelle et transethnique de la symptomatologie dépressive. Les réponses qui sont apportées ne sont pas toujours les mêmes. Il vaut mieux être dépressif en France qu'en Chine. Il vaut mieux être toxicomane en France qu'en Chine. On a eu un exemple récent dans l'actualité. Un touriste britannique qui a été exécuté alors qu'il avait des antécédents psychotiques pour avoir transporté en méconnaissance de cause une mallette pleine de stupéfiants. En Europe, il aurait été acquitté. Donc il y a toute une lecture sociologique et transculturelle. Mais oui, la maladie psychiatrique est universelle. Et on a des incidences qui sont relativement stables, des maladies, des troubles psychiatriques dans les différentes cultures au cours du temps.
Attendez. Voilà, on va vous.
Derrière vous. Je vais donner un petit complément. Vous parliez de la Chine, et c'est exact, parce qu'il y a eu des suicides en Chine aussi, sous la pression quand on met de la tension sur les travailleurs chinois, ils se suicident aussi, quoi, je veux dire.
Alors, je voulais mettre un petit complément, et votre remarque est très intéressante, madame. En effet, par exemple, on va parler d'Afrique. Moi, je me rappelle avoir eu dans mon service à plusieurs reprises des médecins africains qui venaient faire la psychiatrie, enfin, qui étaient médecins, qui venaient donc se former dans notre pays, à la psychiatrie. Et bon, je me rappelle en particulier d'un médecin du Bénin qui me disait qu'il y avait 5 psychiatres au Bénin, vous voyez, pour vous donner une idée à peu près quand même, et que donc ils avaient quasiment aucun médicament, à part des molécules extrêmement anciennes qui étaient données vraiment au compte-gouttes, c'est le cas de le dire. Et donc ils avaient, bon, eux, une manière plus communautaire, enfin, de prendre en charge les personnes, bon, peut-être moins de discrimination, comme tu disais, moins d'exclusion, hein, du fou, entre guillemets, enfin, si je puis dire, hein, donc il restait dans sa famille, etc. Pour autant, bon, il y avait des suicides, il y avait quand même des malades, par contre, ils avaient très peu de moyens, donc parfois, on peut penser que l'aspect, on va dire, de paupérisation d'un pays peut faire en sorte que les gens sont en survivent pour vivre, hein, c'est-à-dire qu'ils cherchent à manger, etc. Et comme tu le disais, après, au bout d'un moment, les sociétés peut-être plus riches, etc., finissent par leur type de vie de surmédicalisé où il y en a fait tout un tas de choses et les maladies psychiques aussi, hein, mais pas forcément toujours dans le bon sens, c'est-à-dire que après on peut voir partout des psychiatres, enfin des psychiatres, non, des pas tant que ça, des malades. Bon, tu parles du trouble bipolaire. Bon, c'est vrai que le trouble bipolaire était quand même assez fréquent, hein, et ça de manière universelle également, quasiment 1% de la population. Mais c'est vrai qu'il y a, des moments où on n'en parlait pas très bien. Mais aujourd'hui, heureusement, l'information faite aux médecins, les associations de patients, etc., permettent quand même d'aller un petit peu plus loin. Et puis, madame, vous parliez des suicides en Chine. Alors, le suicide, hein, dans les pays asiatiques, hein, le Japon et la Chine, est vraiment dans un essor considérable. Hein. Alors, au Japon, pour des raisons de performance, donc là, c'est vraiment les jeunes qui se suicident, très jeunes, les adolescents, hein, qui ont des taux de suicide importants. Hein. Et en Chine, bon, bah, en particulier, il y a beaucoup de femmes qui se suicident, ce qui est assez rare quand même, hein, puisque c'est en général l'inverse. Hein, le suicide est plus le fait de l'homme, hein, que le fait de la femme. Mais au niveau de la Chine, en particulier dans les zones rurale, hein, la vie est tellement désespérante pour la femme qu'elle choisit le suicide parfois assez rapidement.
Oui.
Une question. Oui, moi je voulais vous dire, c'est quand même pour l'avoir vécu, je trouve que d'abord le centre laboriste est très bien parce qu'on peut aller au C4, etc. Ça c'est formidable, mais par contre il manque de psychiatres, vraiment, c'est manifeste. Alors, vous allez les voir, ben, quand vous dites qu'il faut beaucoup parler, etc., ils vous gardent 10 minutes, ils vous donnent l'ordonnance et vous en allez. Et vous voulez faire une thérapie, il faut aller voir un psychologue. ça coûte très cher et donc vous vous en sortez pas, quoi. Il y a un système qui est quand même pervers. Il n'y a pas de prise réelle en charge. Moi, je connais plein de gens qui sont dépressives, entre guillemets, ou qui vont mal, qui pourraient éviter d'aller au fond, mais qui n'ont... Il n'y a aucune... Alors, à force, on se dit, on se passe les trucs, mais ce n'est pas normal. Et les psychiatres n'ont plus le rôle qu'ils avaient il y a quelques années. Ils sont débordés.
Alors, je crois que, madame, là, votre remarque est tout à fait importante. Et comme le disait le docteur Champin tout à l'heure, donc là, je vais repositionner un petit peu, on va dire, le schéma... De la Vienne, hein, puisque là on est à Poitiers, donc on va parler un peu de la Vienne. Nous sommes un département où il y a un nombre tout à fait insuffisant de psychiatres libéraux. Voilà, hein. Et ça, ça était depuis un certain temps, et je dirais qu'actuellement, ça s'accentue. Hein. Donc ça, on n'y peut rien, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les psychiatres à s'installer à Poitiers. Hein, pourtant, curieusement, on ne sait pas pourquoi ils vont tous s'installer à La Rochelle, par exemple, hein, on ne sait pas du tout pourquoi. Mais bon, voilà, donc, mais j'espère que cette tendance va s'inverser. Alors, il faut savoir que le numerus clausus médical est en train, également, depuis toutes ces années... s'inverser. On a de plus en plus de jeunes psychiatres qui sont formés. Hein, les promotions d'internes, Michael, d'année en année augmentent. Donc là, on a quand même de l'espoir pour l'avenir. Hein, la recherche, mais également peut-être le nombre de psychiatres. Ensuite, les médecins généralistes sont quand même là. Et c'est vrai qu'ils sont tout à fait compétents, hein, pour traiter une maladie dépressive. Quand...
Pour donner le médicament, mais si on veut aller au-delà...
Alors, si vous voulez, ensuite, on a quand même un système de soins sur la Vienne, qui est d'ailleurs qui est propre, je dirais, dans tous les départements. On a donc le public, hein, et le privé. Le privé, on en a parlé. Bon, il y a quand même moyen de trouver des rendez-vous. Normalement, les psychologues ne sont pas remboursés, c'est vrai. Hein, c'est, ils peuvent, bon. Après, bon, à chacun d'arriver à trouver le médecin ou le psychothérapeute qui peut vous convenir. Alors, des fois, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas du premier coup. Alors après, sur l'hôpital Henri Laborie, qui est donc le centre hospitalier qui s'occupe de la prise en charge psychiatrique des gens en hospitalisation et en suivi ambulatoire, c'est à peu près 80% de suivi ambulatoire dans notre file active et 20% d'hospitalisation. Hein. Donc là, ça se fait au niveau des CMP. Hein. Donc les CMP, c'est les centres médico-psychologiques qui existent donc sur Poitiers, mais également il y a aussi des antennes dans différentes villes du département. Hein. Donc c'est la sectorisation psychiatrique, hein, puisqu'il y a 4 secteurs de psychiatrie sur la Vienne. Hein. Sur Poitiers, les CMP sont ouverts au niveau du quartier de Beaulieu, hein, depuis maintenant 2 ans et demi. Alors, il y a des psychiatres qui sont tous de l'hôpital, hein, qui viennent faire des consultations. Moi, par exemple, je travaille là-bas, dans un des CMP. Et bon, il y a des internes aussi qui consultent, des chefs de clinique, des psychologues, des infirmiers. Je crois qu'il faut vraiment insister sur le rôle fondamental dans notre discipline de l'infirmier. Hein. Je crois que les infirmiers ont vraiment des compétences professionnelles et de l'expérience qui leur permet de travailler en collaborateurs avec nous dans l'intérêt du patient. Hein. Hein, ce sont des, y a pas que les psychiatres qui peuvent aider. Hein. Je crois que c'est vraiment un travail de groupe. Hein. Mais pour autant, c'est vrai qu'on a des délais d'attente aussi, que ce n'est pas évident. On n'est pas un département, on n'est pas dans les pires, hein, parce que vous allez dans le Nord, alors là, c'est vraiment pire. Il y a encore beaucoup moins de médecins en général, et ça, c'est encore un autre point. Voilà. Donc, mais vous avez raison de pointer ce problème, madame.
Ne répondent plus, ils sont tellement débordés qu'ils ne répondent plus. Je vous dis, moi, ils font une ordonnance, ils donnent ce que ferait un généraliste, carrément.
Bah, le journaliste fait un peu plus, quand même. Hein.
Oui, peut-être. alors que si on veut l'équivalent, il faut aller voir un psychologue.
C'est différent.
Pas reconnu par alors, justement, la sécurité sociale.
C'est différent. Hein. Alors, non, ce que vous dites là, madame, c'est que.
Le meilleur
non,
peut côtoyer je
peux pas vous laisser dire ça quand même. Hein. Les psychiatres ne vous voient pas 5 minutes, on peut pas voir les gens 5 minutes. Hein.
Justement, alors
ça,
moi, c'est impossible. Avoir une différence,
enfin, je sais pas ce que tu en penses, Michael, mais.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je voudrais justement, pour ceux qui ne sont pas au courant, très rapidement, alors vous me faites ça en 35 secondes, la différence entre un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychologue, parce que vous avez employé un peu tous ces mots, c'est qu'il y a des différences par rapport à...
Oui, statutairement, le psychiatre est médecin diplômé d'État spécialisé en psychiatrie. Ses champs théoriques sont vastes selon son degré de formation, thérapie cognitivo-comportementale et thérapie d'inspiration analytique, données neurobiologiques. Donc le psychiatre est théoriquement le chef d'orchestre d'une prise en charge qui se voudrait être pluridisciplinaire et multiaxiale entre le psychologique et le neurobiologique, le neuromédical. il a de fait la possibilité de prescrire. Le psychologue possède un titre, un diplôme d'État reconnu qui ne lui permet pas d'être conventionné avec la Sécurité sociale, qui ne lui permet pas de prescrire puisqu'il n'est pas médecin, et dont l'orientation est fonction de la formation initiale. Il existe trois grands axes de formation, les thérapies, les psychologues d'inspiration cognitive, d'inspiration comportementale et d'inspiration analytique, sachant qu'en France, ce qui prédomine, c'est plutôt l'image du psychologue psychanalyste, donc d'inspiration analytique, et qui pratique l'analyse, etc., dans le divan. Le psychothérapeute, aujourd'hui, c'est un titre qui n'est pas protégé. N'importe qui peut s'installer avec, depuis peu.
Ça a changé.
Ah, il y a une info.
Dorénavant, depuis quelques mois, il y a une commission maintenant dans chaque agence régionale de santé qui contrôle toutes les personnes qui veulent avoir le titre de psychothérapeute. Je suis dans cette commission depuis le mois dernier, donc je le sais. Et donc, à partir de là, tous les gens qui veulent avoir le titre officiel de psychothérapeute ont déposé un dossier. Il y en a plusieurs centaines qui doivent être étudiés là, dans l'année. Hein. Et donc, à partir de là, il y a des critères très précis qui font qu'il y a des gens qui seront acceptés ou non comme étant psychothérapeute. Et sur les pages jaunes de l'annuaire, vous aurez des classifications. Bon, mais ça, c'est à partir des gens qui ont fait leur demande. Hein. Mais il y a des gens qui peuvent encore poser leur plaque.
Quand on choisit un psychologue, il faut prendre un psychologue clinicien. Parce qu'il y a plusieurs sortes de psychologues. Il y a des graphologues, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans les embauches, etc. Il faut prendre des psychologues cliniciens. Alors la différence avec un psychiatre, c'est comme vous l'a dit mon jeune confrère, ils ne sont pas médecins. Donc, en droit français, seul un médecin est capable de poser un diagnostic. Donc, si vous voulez, le psychologue, c'est un auxiliaire. Il va mener une thérapie, mais il n'est pas habilité à poser un diagnostic, hein, comme une infirmière ou un kiné, etc. Seul un médecin diplômé d'État peut faire ce travail. Alors, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Un médecin psychiatre, évidemment, peut aussi faire des thérapies analytiques, cognitives, etc. Mais par contre, un psychologue ne peut pas poser de diagnostic ou prescrire de médicaments.
D'accord, merci pour cette précision. Je pense que c'est important, effectivement. Ouais. D'autres questions? On va aller là-bas.
D'accord, bonsoir. Moi, ma question, ça concerne plus sur les éléments déclencheurs de la maladie. Vous avez dit qu'on pense avec nos neurones, nos hormones et le système immunitaire. Donc, est-ce que c'est, enfin, si on est vulnérable, est-ce que c'est par un choc émotionnel ou est-ce que ça peut être après une maladie auto-immune ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse, ça varie.
Alors, vous posez la question de ce qu'on appelle la vulnérabilité en psychiatrie. La vulnérabilité, c'est quelque chose de multiaxial. Dans la conception actuelle de la maladie mentale, le modèle dominant aujourd'hui, c'est un modèle qui est biopsycho-environnemental. En d'autres termes, quelqu'un qui déclenche une maladie, eh bien, il franchit un seuil qui est fonction de sa biologie, de ce qu'il a vécu et de la nature des événements traumatiques et de la répétition des événements traumatiques qu'il va pouvoir vivre. On a défini arbitrairement une notion qu'on appelle la résilience, qu'on peut tester par exemple chez l'animal par des tests de nage. On met une souris dans un bol et on regarde combien de temps elle nage avant de se laisser mourir. Chez l'homme, c'est pareil. On n'a pas tous. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, il y a des bruns. Il y a des gens qui ont une faculté de résilience importante, donc ont des facultés de résilience un peu moindres. Mais avec une faculté de résilience donnée, c'est évident que si dans la même année, vous perdez votre père, vous perdez votre job, vous perdez votre copine, il y a peut-être des chances pour que vous déclenchiez la maladie mentale. En d'autres termes, la question de la vulnérabilité est une question qui ne peut se traiter qu'à l'échelle individuelle et pas à l'échelle de la population. Donc on ne peut pas se placer dans un raisonnement qui serait celui des maladies cardiovasculaires ou autres, puisque vous voyez bien qu'on est à la croisée des chemins et que si on veut être raisonné, on est bien obligé d'envisager chacune de ces dimensions. Par ailleurs, on sait qu'un certain nombre de maladies neurologiques ou endocriniennes peuvent causer de fait des symptômes psychiatriques qui sont a priori réversibles lorsque l'affection donnée est traitée. C'est le cas particulier de certaines formes de sclérose en plaques, c'est le cas des hypothyroïdies, etc., qui sont logiquement dépistées par le réseau des médecins généralistes ou par les psychiatres lorsqu'il y a des hospitalisations pour des états dépressifs graves. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Question suivante. Voilà. Ouais, on va aller devant. Ah, alors, on arrive vers vous, madame, devant, en 2 minutes. Allez-y.
Oui, je voudrais savoir, moi, pour la maladie mentale sur l'anorexie, comment est-ce que maintenant, en clinique, quand elles sont hospitalisées, est-ce que vous les interdisez toujours d'être séparées, de voir la maman et le papa quand elles sont hospitalisées? Est-ce que ça existe encore cette,
Alors là, vous posez, madame, la question du traitement des maladies anorexiques, c'est bien
oui,
ça
parce que hein moi, je,
voilà, hein.
je suis...
Alors, bon, on est un petit peu hors sujet, donc alors est-ce qu'il faut alors, que je réponde ou non? Je demande l'avis de notre journaliste. Je peux répondre, hein, mais bon.
Je voudrais savoir pour.
Peut-être se voir à la fin.
Oui, hein, c'est peut-être mieux à ce moment-là, madame. On prendra un temps après, voilà, si vous voulez.
Parce qu'il y a encore quelques questions. Madame. Je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Merci.
Alors, moi, je voulais savoir si on en guérit vraiment.
Une bonne question.
Alors, bon, ça, c'est bien sûr la question qu'on attendait, sans l'attendre, mais bon, qui est normale. Et d'ailleurs, c'est une question qui est régulièrement posée par nos patients, hein, mais même chez des personnes que je suis depuis des années. Alors, c'est le problème, si vous voulez, la guérison, je dirais même en général en médecine, hein, ça reste quand même une question et qui n'est, et une résolution qui n'est pas, qui ne coule pas de source. Hein, comme disait mon collègue, une angine, oui, on en guérit. Un diabète, bon ben non. D'autres, une hypertension non plus. Bon, la maladie dépressive, hein, bon, on peut en guérir, oui, hein, bien évidemment. Hein, on peut faire un seul épisode dans sa vie. Hein, mais il y a aussi le fait d'une certaine, quand même, ensuite, d'un terrain, on va dire, de vulnérabilité, hein, puisque, comme vous avez compris, le cerveau est un organe complexe. Et le fait qu'il ait été quand même... imprégné enfin, par cet épisode de maladie dépressive, fait qu'il va pouvoir, à certaines occasions, être sujet éventuellement hein, à ce qu'on appelle une rechute hein, ou une récurrence de l'épisode dépressif. Donc, c'est vrai qu'on peut guérir, hein, mais il peut aussi y avoir des épisodes de rechute dépressive. Peut-être, Michael, sur le plan plus... non, ou Bernard ?
Rapidement, en médecine, avant de prononcer le terme de guérison, il faut être très, très prudent. On parle souvent, par exemple, suite à un accident de travail ou un accident tout court, de consolidation, ou même aussi dans certaines maladies cancérologiques, de rémission. Mais on prononce rarement le mot de guérison. La guérison, c'est vraiment la guérison ad integrum, complète. Hein, je parlais le cas d'une angine. Mais bon, on ne guérit pas d'un infarctus. Un infarctus, s'il est constitué, il est constitué. On soigne un infarctus, on s'en remet, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Donc, il faut bien, avant de prononcer le mot de guérison, il faut quand même être très, très circonspect. Hein. Rémission ou consolidation ou traitement, ou etc.
Alors, on a des recommandations, hein, bien évidemment. Nous, en tant que médecin ou en tant que psychiatre, on apprend. Hein, donc, on a des recommandations dans les durées de traitement, par exemple. Hein. Alors, on va dire, premier épisode dépressif, bon, personne qui n'a, on va considérer traitement de 6 mois, par exemple. Voilà. Puis après, on va le diminuer petit à petit. Si la personne rechute, bon, il y a un pourcentage de rechute tout à fait possible. Hein. Dans certains cas, bon, bah, on va dire le traitement va être maintenu pendant 1 an. Hein. Et puis après, il y a des personnes dont le traitement est maintenu encore plus longtemps. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Mais il est vrai hein, que on peut considérer que le fait d'avoir un épisode dépressif en soi est déjà un facteur de risque pour avoir d'autres dépressions après.
Et justement, est-ce qu'en cas de rechute, le patient appréhende différemment la dépression ?
Alors, les rechutes,
comme il a connu déjà...
les rechutes sont jamais les mêmes.
D'accord. Hein,
c'est jamais les, c'est pas de manière immuable toujours la même chose. Hein, donc, elles peuvent être, ça peut être différent, ça peut être très longtemps après, 10 ans après éventuellement. Et la personne vient nous voir et on va voir son médecin et en général elle a repéré hein, qu'il y avait un, et plus on est précoce dans le traitement, bien meilleure va être la consolidation et la rapidité. Hein.
Docteur Champin.
Un petit mot sur la guérison où il faut être prudent. Un médecin qui dirait à son patient vous êtes guéri, c'est terminé. Il ne vous arrivera plus rien, c'est quand même un pari sur l'avenir. Et imaginez que le patient fasse une rechute, la responsabilité du médecin est engagée, il pourrait lui reprocher de ne pas justement lui avoir donné l'information adéquate. Donc il faut quand même être très très prudent avant de crier victoire.
Madame, vous souhaitiez rajouter ?
Et au bout d'une ou deux rechutes, normalement, on accepte les... On reconnaît et puis on accepte. Hein. Moi, je sais que je fais de la dépression depuis très longtemps. Madame Lévy me connaît. J'ai eu pas mal de soucis dans ma vie, des gros épisodes. J'ai perdu ma mère à 9 ans. J'ai pas été soignée. Après, j'ai eu ça, pendant une période, ça a été. J'étais très, très, très bien. Après, j'ai vécu un divorce difficile. Donc, j'ai rechuté. J'ai eu, il y a 4 ans et demi, j'ai eu un fils qui a fait une rupture d'anévrisme, j'ai rechuté, je suis toujours sous traitement et je me demande si un jour je vais m'en sortir.
On vous remercie de votre témoignage, madame, hein, mais il est évident que bon, vous devez continuer à avoir un accompagnement hein, thérapeutique, ça c'est sûr, hein, oui. Mais bien évidemment, bon, après, il faut voir avec le médecin, mais oui. Il est sûr qu'il est plus prudent de vous maintenir à un traitement. Hein, ça, c'est...
Il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, préparez-les, parce que ça va être maintenant. Donc là, on a 2 autres questions, et madame.
Les implants comme les spacemaker, vous parlez... Est-ce que c'est plus efficace que les médicaments, les implants cérébraux?
Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, les stimulations cérébrales profondes, c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment la chirurgie cardiaque à cœur ouvert de la psychiatrie. Donc ça s'adresse à des gens qui ont un parcours de la maladie dépressive qui a été clairement identifié avec des facteurs de résistance aux molécules conventionnelles, aux molécules qu'on utilise dans les cas très compliqués et aux autres techniques de traitement, telles que les hormones thyroïdiennes, la sismothérapie, etc. Donc les gens qui bénéficient de ce type d'intervention, et ils se comptent sur les doigts d'une main à Poitiers, sont des gens qui, depuis longtemps, ne répondent plus aux traitements conventionnels. Voilà. Donc on est vraiment dans 2 champs différents. On n'est pas dans la dépression de la personne qui perd son emploi, on est vraiment sur la maladie dépressive grave et lourde de patients qui résistent à toutes les techniques conventionnelles. C'est pour ça que mon intervention est un petit peu en aparté, comme une ouverture hein, sur des choses potentielles qui se font, mais qui restent exceptionnelles. Alors les résultats, je ne peux pas en parler, puisque les études, elles sont en cours, et que quand on est un scientifique qui se respecte, on ne vend pas la peau de l'ours avant d'avoir évalué les résultats.
Très bien. Une autre question ici.
Est-ce qu'on peut se complaire dans sa dépression ou dans sa maladie mentale et ne pas vouloir la quitter?
Alors là, c'est un champ de réponse très complexe. Alors, j'aime pas tellement le terme se complaire, hein, puisque bon, ça donnerait l'impression que la personne, finalement, n'existe qu'à travers sa dépression. Et c'est peut-être un petit peu ça, je crois, que vous voulez dire. C'est-à-dire les personnes qui vues de l'extérieur, donnent l'impression qu'à partir du moment où on peut leur proposer une évolution de leur vie, des solutions qui pourraient les rendre plus heureux ou autre, elles refusent. Hein. Donc, il est vrai qu'on a... Hein, bon, mais à ce moment-là, on est plutôt dans le registre, on va dire, de la névrose aussi, hein, et du trouble de la personnalité, hein, des personnalités, hein, bon, névrotiques, bon... hystérique, anxieuse, grave, qui en plus de la dépression, parce qu'on peut avoir des comorbidités, ça on n'en a pas parlé là, puisque ce n'était pas le sujet, mais on peut avoir une maladie dépressive et par ailleurs un autre trouble psychologique, mental, et un trouble de la personnalité, ce n'est pas une maladie en soi, hein, ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est quand même une manière de réagir à la vie qui fait que des personnes, parfois, apparaissent ne pas pouvoir bouger. Quoi, hein. Donc, même si elles ne sont pas forcément gravement dépressives, on nous-mêmes, en tant que médecins ou thérapeutes, on essaye de les faire avancer, puis on voit que ça stagne complètement et qu'elles ne sont pas prêtes. Quoi. Voilà, donc c'est, en effet, c'est possible.
Oui, c'est une façon de se faire plaindre, un peu de se faire prendre en pitié, quelquefois, pour certains. C'est
un peu leur existence, après. Hein.
Moi, j'aimerais savoir, parce que je souffre de dépression bipolaire, et pourquoi donc il y a des gens qui reprennent leur travail, et pourquoi il y a des gens qui sont mis en invalidité, comme moi j'ai été mis, si vous voulez, puisque bon, les psychiatres ont jugé que je ne pourrais plus travailler du tout.
Bah, ça c'est encore une autre question. Je vais être très rapide parce que c'est un petit peu, ça sort un peu du champ. Hein. En effet, le fait d'avoir une maladie dépressive dans un trouble bipolaire ou non, d'ailleurs, hein, fait qu'à un moment vous avez pu être en arrêt de travail un certain temps. Bon, pour travailler, il faut être considéré apte complètement à son poste de travail. Si dans le cadre d'un arrêt de maladie plus long, on vous a proposé d'être en longue maladie, vous avez vu des experts, hein, ça c'est votre cas madame, et les experts, d'après leur expertise hein, psychiatrique, ont conclu au bout d'un certain temps que vous ne pouviez plus travailler, ou ça peut être le médecin de la sécurité sociale qui a conclu à ça. Donc là c'est vraiment des rapports d'expertise et je ne peux pas tellement vous répondre là directement cette question-là.
Et encore 3 petites questions rapidement, devant. Qui Ah, pardon, ah oui.
Merci. Donc par rapport à, je comprends bien ce que vous avez exprimé, que la dépression est une maladie grave, mais la différence entre une dépression et une maladie mentale. Donc par exemple, on a parlé d'Alzheimer, de choses comme ça. Je confonds un peu tous ces termes. Est-ce que vous pourriez me donner des explications ?
Le problème, c'est que, en particulier en France, on met sous couvert de dépression un peu tout. La tristesse, les troubles de l'adaptation et d'authentiques maladies, comme j'essayais de vous l'expliquer. Le dépressif est un patient qui souffre du mal-vivre comme l'aveugle souffre de la cécité. Le dépressif est un patient qui est handicapé du sentiment. Il lui manque quelque chose pour pouvoir jouir de ses facultés d'adaptation sociale, etc. Et ça, parfois, c'est véritablement médié par un déficit neurologique qui s'inscrit ou non dans une autre pathologie ou pas. Donc quand on parle de dépression, quand je parle de maladie dépressive, je l'ai dit en préambule, je m'adresse au faible pourcentage de patients qui sont étiquetés dépressifs et qui souffrent d'une véritable maladie dépressive, et non pas aux troubles de l'adaptation ou aux différentes difficultés psychologiques qu'on est amené à rencontrer dans le cadre de notre activité de psychiatre. Et ça pose aussi toute la difficulté à redéfinir ce qui est de la part de la psychiatrie ambulatoire, de la psychiatrie hospitalière, de la psychiatrie hospitalo-universitaire et du réseau de soins de ville. Et le jour où on aura réussi à mettre de l'ordre dans ce qu'on appelait dépression et dans ce qui nécessite quoi et qui et quand, peut-être effectivement que le parcours de soins sera plus lisible pour tout le monde.
Comme vous l'a dit mon confrère, on est dans la maladie du sentiment, dans la maladie de l'humeur, qu'il ne faut pas confondre avec les maladies neurologiques dites neurodégénératives, comme un Parkinson, qui est lié à un manque du médiateur, la dopamine, l'Alzheimer, l'acétylcholine, la sclérose en plaques et autres. Il ne faut pas confondre les deux. Malheureusement, il peut y avoir, comme vous l'a dit ma consoeur, des comorbidités. On peut avoir à la fois un Parkinson, une dépression, un Alzheimer et une dépression, etc. Mais c'est quand même des cases et des tiroirs différents.
Une question ?
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si on pouvait considérer la tentative de suicide comme un élément pouvant s'inscrire, entre guillemets, dans les différentes thérapeutiques du parcours du patient. Je vais essayer de m'expliquer. Comme on va éprouver une limite, celle de la mort, est-ce que ça aide le patient dans son parcours ? Une fois qu'il est sorti de cet épisode de tentative, est-ce que ça lui redonne goût à la vie ? Est-ce que ça l'aide ?
Si un abcès avait été crevé.
Votre question, elle est complexe, mais moi, j'y répondrai directement non. Hein, c'est-à-dire que la tentative de suicide n'est pas thérapeutique. Par contre, elle peut amener, à condition que la personne soit prise en charge, on va dire par une équipe spécialisée après, hein, c'est-à-dire qu'elle puisse être prise en charge par un médecin, qu'on arrive à comprendre dans quel cadre est-ce qu'elle a fait une tentative de suicide parce qu'elle est en maladie dépressive, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres drames de sa vie qui ont poussé à ce que la seule solution qu'elle ait perçue, c'était de, pas forcément de mourir, mais en tout cas d'arrêter la souffrance qu'elle avait, hein, par une tentative de suicide. Là, s'il y a des choses qui sont mises en route, on peut considérer que la tentative de suicide va permettre de changer des choses dans sa vie, hein, soit de faire comprendre à ses parents qu'il ne va pas bien, pour un jeune, par exemple, soit d'accepter d'arriver ensuite à pouvoir faire une thérapie ou à changer certaines choses de sa vie. Donc ça peut être quelque part une espèce d'ouverture, mais après, hein, dans l'après, et la personne, en effet, peut dire « mais moi, j'ai envie de vivre, voilà, hein, j'ai vraiment envie de vivre, et à partir de maintenant, je vais me faire aider, je vais essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. » Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, mais ce n'est pas un traitement en soi. Hein. Mais le fait de se sentir, quand la personne se réveille, par exemple, d'un coma ou autre, après une tentative de suicide médicamenteuse, il y a une phase assez courte, hein, où on peut arriver un petit peu à être dans l'authenticité avec la personne, hein. On peut alerter un petit peu ses proches, il y a des choses des abcès qui peuvent se crever, comme tu disais un petit peu, et de là on peut en sortir à ce moment-là et avancer. Mais malheureusement, il y a des cas où c'est pas du tout ça, hein, donc voilà. Bien évidemment, la tentative peut être également aboutir à une mort si le suicide est abouti. Hein, voilà.
Docteur Diane Lévy-Chavagna, merci. Merci docteur Michael Baconnier, merci aussi au docteur Bernard Champin, pardon, d'avoir été avec nous, champion aussi, on peut le dire. Vous pouvez les applaudir. Merci à l'organisation CHU, à l'Espace Mendès France, à l'équipe technique, aux traducteurs également, traductrices qui étaient là, à vous public. N'oubliez pas de remettre la petite fiche, elle est très importante afin que l'on puisse faire évoluer.